DW, l'arbre à palabre.
Bonjour. Ces dernières années ont connu une évolution rapide du terrorisme et de l'extrémisme violent en Afrique. Les solutions apportées par les États se révèlent pour l'instant insuffisantes pour endiguer le phénomène. Les armées comptent des pertes d'hommes par dizaines et les populations civiles sont contraintes à la fuite dans plusieurs pays, notamment ceux de la bande saharo-sahélienne. Et pourtant, d'après l'index global du terrorisme à l'échelle mondiale, le nombre d'attaques et de dégâts a significativement baissé par rapport au pic enregistré en 2014. Pourquoi les pays africains, la plupart en retard de développement et sans gros intérêts extraterritoriaux, se retrouvent-ils au premier plan des zones les plus frappées aujourd'hui ? Question à nos invités, colonel magistrat Jean-Pierre Bayala, officier de l'armée burkinabé à la retraite. Vous enseignez actuellement à l'Institut supérieur de sécurité humaine et vous êtes le père fondateur de la justice militaire au Burkina Faso. Magistrat colonel Jean-Pierre Bayala, bonjour.
Bonjour.
Ahmedou Ould Abdallah, directeur du Centre de stratégie et de sécurité pour le Sahel et le Sahara, ancien ministre mauritanien des Affaires étrangères, ancien fonctionnaire de l'ONU. Monsieur Ould Abdallah, bonjour.
Bonjour.
Joseph Vincent Toudaï-Bodé, professeur d'université au Cameroun, directeur du Centre de recherche d'études politiques et stratégiques de l'université de Yaoundé 2. Professeur Toudaï-Bodé, bonjour.
Bonjour également.
Au micro, Fréjus Kenom, merci à tous nos auditeurs de nous avoir rejoints pour cette émission Arbre à Palabre. DW. Nous commençons par clarifier les choses. Cette émission sur le terrorisme, qui n'est pas la première que nous présentons sur notre antenne de la DW, est organisée cette semaine en accroche avec deux événements. Le 18e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis et la réunion organisée à Ouagadougou au Burkina Faso par plusieurs États frappés par le terrorisme de la sous-région qui veulent discuter encore une fois et voir les solutions, notamment du point de vue de développement à apporter à ce phénomène du terrorisme. Alors, je voudrais donner la parole pour commencer à Ahmedou Ould Abdallah, le directeur du Centre de stratégie et de sécurité pour le Sahel et le Sahara. Vous étiez, monsieur Ould Abdallah, à New York en ce jour de septembre 2001, lorsque les attentats ont eu lieu.
Tout à fait. J'étais à New York ce jour-là. Et par chance, entre guillemets, j'ai pris l'avion pour Washington très tôt, à 7 heures du matin. Je dis par chance parce que dès que les attentats ont été effectués et connus, les aéroports et les entrées et sorties de New York étaient fermés. Or, j'avais d'importants rendez-vous à Washington. Et donc, j'étais là. Comme beaucoup de gens, on pensait que c'était un petit avion qui est tombé par accident sur la tour.
Et pour vous, c'était assez bouleversant comme événement.
Mais c'est le lendemain, ou l'après-midi en tout cas pour moi, que j'ai compris l'amplitude d'événements. Je voyais des voitures militaires, par exemple, autour de mon bureau. J'étais sur la Pennsylvania Street, à une rue de la Maison-Blanche.
Merci Ahmedou Ould Abdallah pour ce témoignage. Le 11 septembre 2001 a marqué un tournant dans cette réalité du terrorisme et dans la riposte apportée par les États à cette réalité. Colonel magistrat Jean-Pierre Bayala, je le mentionnais, malgré les efforts fournis, les budgets défense en hausse et l'assistance des partenaires extérieurs, il continue d'y avoir une concentration d'actes terroristes frappant un petit nombre de pays africains. Votre pays, le Burkina Faso, est régulièrement frappé dans le Nord. Pourquoi, selon vous, un tel harcèlement ?
Pourquoi un tel harcèlement sur mon pays, le Burkina Faso ? Pour moi, il n'est pas question de harcèlement sur une zone définie. Il faut dire que lorsque on jette une analyse assez profonde sur l'État islamique, son ambition est certes de mettre sous coupe réglée islamique l'Afrique noire et l'Afrique blanche. Et donc le Burkina, qui partage une longue frontière avec le Mali, qui a été pris comme la base de départ, une base d'implantation à partir de laquelle ces ce mouvement-là de conquête idéologique doit partir, naturellement, il fallait s'attendre à cet embrasement. Mmh. Et dans la volonté, justement, des mouvements, des groupes terroristes, Moujaou, on se rappelle, avait dit dès le départ que tous ceux qui allaient soutenir la France les trouveraient sur leur chemin. Et malheureusement, les replis après les attaques maliennes étaient recueillants sur notre territoire. Ça peut être l'une des causes qui font que le Burkina s'est trouvé donc dans la ligne de mire de ces mouvements.
Oui.
Du reste, en 2012, j'avais eu l'honneur de conduire une enquête justement du Danemark et de l'Union européenne sur la région. Et là, la conclusion pour nous a été très claire, c'est que le terreau explosif qui allait faire qu'après le Mali, l'attaque suivante, sinon cumulée, sera le Burkina. Sans compter que naturellement, lorsqu'on analyse les facteurs, les causes, il faut dire que le terreau pour des pays pauvres, pour des pays comme le mien, des pays où l'éducation est véritablement en retard, puisque l'ignorance est une des causes évidemment du terrorisme.
Mmh. Joseph Vincent Toudaï-Baudet, est-ce que vous êtes dans la même approche? C'est à croire que donc la menace terroriste ou la réalité terroriste dans ces pays, le Burkina Faso, le Mali et les autres, que c'est une situation importée hein, dans ces pays?
En partie, on peut être d'accord avec lui parce que, comme vous avez commencé par les attentats de New York, il faut bien se dire qu'en ce temps-là, lorsque ces attentats se sont passés, parler de terrorisme en Afrique était comme si c'était aller s'occuper d'un problème étranger. D'ailleurs, une des difficultés d'Africom à s'installer en Afrique, objectivement, c'était ne pas ouvertement s'associer aux États-Unis de peur d'attirer les terroristes. Et on sait que une bonne partie des terroristes partis du Moyen-Orient étaient à la poursuite des Américains et on a vite fait le rapport avec leur investissement dans le golfe de Guinée en matière, par exemple, du pétrole. Mmh. Il y a une partie qui vient de l'extérieur, mais cette partie qui vient de l'extérieur nie des alliances avec une partie locale et qui, pour des raisons de gouvernance, accepte participer à cette criminalité transfrontalière qui donc menace l'Afrique aujourd'hui. Une autre raison aussi, la vérité est que lorsque le terrorisme est arrivé en Afrique, les forces de sécurité et de défense ne s'étaient pas encore spécialisées dans cette matière-là. Si vous regardez au niveau de l'Union africaine, vous allez voir que l'architecture de paix et de sécurité continentale n'a pas prévu dans ses moyens de lutte les questions de terrorisme. Mmh. On a beaucoup plus prévu les guerres entre les groupes ethniques à l'intérieur du pays. Tout cela renforce l'idée que, grosso modo, le terrorisme dans sa version actuelle qui se dissimule et qui se propage en Afrique vient quand même de l'extérieur et que c'est petit à petit que les États prennent conscience et se mettent donc à s'ajuster en termes de formation des hommes pour y faire face.
Joseph Vincent Toudaï-Baudet, je rappelle aussi que vous intervenez à l'école militaire. Hein. Colonel Jean-Pierre Bayala parlait de l'État islamique et ses visées pour l'Afrique noire et l'Afrique blanche, mais il y a d'autres visages. Hein. Quand on parle de terrorisme, il y a Boko Haram, il y a bien sûr ACMI, il y a d'autres petits groupes. Il y a maintenant le GSIM, il y a même des coalitions terroristes sur le continent africain. Est-ce que tous ces groupes poursuivent les mêmes objectifs, Monsieur Ould Abdallah?
Il y a, à mon avis, une base fondamentale, c'est la mauvaise gouvernance. Les jeunes sont de plus en plus nombreux, ne sont pas prêts à supporter des injustices flagrantes que Internet, que les radios, que les télévisions rendent plus visibles. Et la réponse dans la plupart de nos pays est par des armées qui, individuellement, sont de bonnes armées, mais qui, avec le temps, dans plusieurs pays, je ne généralise pas, sont aussi devenus des armées ethniques ou tribales ou religieuses. Je préfère que la réponse à ce terrorisme dangereux et pervers, nous cherchons à la trouver à notre niveau, réformant notre gouvernance, nos forces de sécurité, ils ont fait des actes héroïques, par exemple, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais il faut que les armées soient nationales et pas des milices ou des tribus ou des choses comme ça.
Ouais. Jean-Pierre Bayala, quand on suit un peu le cheminement de M. Ould Abdallah, on pourrait, dans un premier temps, se réjouir et se dire que si les États réussissent à encadrer tous ces jeunes, à faire de la bonne gouvernance, le terrorisme n'existera plus. Mais apparemment, c'est pas aussi facile que ça. Est-ce que tous ces jeunes qui vont s'engouffrer dans les bras des entrepreneurs de violence sont tous des chômeurs, sont tous mus par des mobiles donc de frustration liés au chômage, au manque d'emploi?
Lorsque on considère l'aspect de la gouvernance aujourd'hui dans nos États, le type même de démocratie, la notion d'État de droit, on se rend compte que le terreau même de la révolte des sujets dans un État trouve les conditions de radicalisation à cause de la mauvaise gouvernance, à cause de l'absence de démocratie, à cause de l'absence d'État de droit. Et lorsqu'on arrive donc à cette radicalisation, avec évidemment l'effet rayonnant du terrorisme qui, faut le dire, a été importé, il ne faut pas se le cacher, et vous voyez que tout ce que nous vivons aujourd'hui part de la crise libyenne. Et qu'est-ce que Kadhafi avait dit quand il sentait la menace sur lui? Il a dit, si on s'attaque à la Libye, il va libérer les forces du mal.
Mais colonel Jean-Pierre Bayala, la secte Boko Haram au Nigeria, par exemple, n'est pas née de ce qui s'est passé en Libye. Et Boko Haram n'a pas été une importation sur le continent africain ou au Nigeria.
Boko Haram, son aspect, il est essentiellement idéologique. Cela veut dire aussi que c'est importé. Lorsque vous prenez l'ensemble de nos religions, est-ce qu'elles sont africaines véritablement?
Joseph Vincent Toudaï-Bodé, par rapport donc à Boko Haram, croyez-vous que la direction ou le concept de Boko Haram est importé ou bien c'est généré de préoccupations endogènes au Nigeria?
Dans une grande partie, ce fut d'abord endogène. Et je pense que c'est justement en raison des problèmes de gouvernance qui ont été évoqués là tout à l'heure. Il y a quelque chose de local. Mais dans l'idéologie religieuse, il est évident qu'il y a des emprunts qui viennent du Moyen-Orient. Dans le matériel de lutte, il est aussi évident qu'il y a des moyens qui viennent du Moyen-Orient. Donc pour moi, c'est un mécanisme mixte d'acculturation. Mais au-delà de la gouvernance, il y a quand même ce qu'on apprend en sciences politiques comme étant la personnalité du dictateur. Certaines personnalités sont plus exposées à recourir à la violence, quelles que soient les conditions dans lesquelles elles ont été élevées. C'est-à-dire les jeunes Français qui acceptent d'aller lutter en Irak, en Syrie ou ailleurs, ce n'est pas parce qu'ils connaissent les mêmes problèmes qu'en Afrique.
Voilà.
Donc, je rejoins ce qu'ils ont dit, il y a une multiplicité de causes qui peuvent expliquer la montée en puissance du terrorisme aujourd'hui, en Afrique comme ailleurs.
Raison pour laquelle aussi certains préfèrent parler d'insurrection plutôt que de terrorisme. On va avancer dans cette émission. Ahmedou Ould Abdallah, vous avez tous parlé de gouvernance, ce qui implique la riposte des États. Que pensez-vous de cette riposte, de ces regroupements qui sont créés et même de ce recours qui se fait même fréquent à l'aide occidentale pour venir assister les pays africains sous la perception que le terrorisme est quelque chose de global et pas une préoccupation seulement aux États africains touchés. Qu'est-ce que vous pensez donc de cette approche des États africains?
Voilà. Très rapidement, j'insiste sur le fait soulevé par les autres et par vous-même que la pauvreté n'est pas la cause principale. Le Sahel a toujours été, et je fais partie du Sahel, a toujours été plutôt pauvre, austère, pas d'eau, pas de nourriture. On n'en était pas pour autant de terroristes. Deuxièmement, j'insiste aussi pour éviter, 60 ans après nos indépendances, de dire que c'est toujours la faute des autres, que tout est importé. Donc, nous faisons partie du monde, nous sommes atteints par les mêmes phénomènes que ce que subit le reste du monde, et il faut qu'on y trouve la réponse
adaptée. Et pourtant, c'est l'argument mis en avant par beaucoup de chefs d'État africains en disant « Cette affaire, c'est vous qui nous avez embarqués dans cette affaire, et donc venez nous aider à y faire face ». Est-ce que c'est juste? Est-ce que cette approche vous paraît logique et efficace?
Je ne partage pas cette opinion. Je peux la comprendre. Des hommes politiques, en général, nous pratiquons le capitalisme, les achats, les ventes, Internet. Et dès que quelque chose ne va pas, c'est toujours la faute des autres. Donc, les opinions n'acceptent plus ça. La Libye, comme on dit chez les musulmans, que Dieu est l'âme de la David, il a toujours financé les rébellions au Tchad, au Niger, le nord du Mali, et il a même essayé en Tunisie et en Algérie. Et maintenant, on dit que c'est sa chute qui est à l'origine de tout. Nous devons mettre les choses dans le sens de l'histoire. Mais pour répondre à votre question, quand il y a une menace sérieuse, durable, beaucoup de pays font appel à des alliés. Je soutiens le fait que les 5 pays du Sahel ou des pays comme la Côte d'Ivoire ou le Cameroun ou le Sénégal, s'ils le veulent, appellent des étrangers. Je ne pense pas que c'est infamatoire. Je ne pense pas que ça soit dangereux. Une fois de plus, nous ne pouvons pas toujours jouer sur notre spécificité. Mais cet appui, par exemple, il y a les drones, il y a les services d'écoute, les satellites, nous ne les avons pas. Il est normal que nous demandions à des pays qui peuvent nous aider, que ce soit l'Europe, la France en particulier, l'Espagne, l'Allemagne et aussi les États-Unis, nous aider. Il y a un prix à payer. On doit nous aider, mais nous devons nous-mêmes constituer des fronts nationaux et que nous ayons des gouvernements d'union nationale pour faire face à une menace qui n'est pas éternelle.
Pour éviter qu'une partie de la société soit frustrée et veuille se rébeller.
Tout à fait.
Il y a des choses à faire donc au plan intérieur. Colonel Jean-Pierre Bayala, Monsieur Ould Abdallah soutient quand même que lorsqu'on n'a pas un certain nombre de matériel, il est normal qu'on recourt à des partenaires. Mais est-ce que les populations sur place approuvent cette démarche? Est-ce qu'on parle aujourd'hui du G5 Sahel qui opère à des frontières données avec du matériel, de la connaissance donnée par les armées étrangères? Mais est-ce que les populations sont d'accord avec tout ça? Est-ce que ces actions ne sont pas vouées à l'échec?
À cette question, j'ai dit pour le moment, quand j'analyse la mise, d'abord l'initiative du G5 Sahel et sa mise en place et son fonctionnement, il y a problème. On est bientôt à la fin de la quatrième année, on n'a ni le budget nécessaire, ni le résultat concret sur le terrain et qui est de nature justement à convaincre et à satisfaire les populations que l'on va vers la paix recouvrée dans cet espace-là.
On va entendre la réaction du professeur Joseph-Vincent Toudaï-Baudé sur l'approche des États africains, l'approche de solutions apportées à ce problème de terrorisme.
On peut dire qu'il n'y a aucun État au monde qui peut faire face au terrorisme étant seul. D'abord parce que le terrorisme emprunte les moyens des guerres asymétriques. Donc les armées n'ont pas la capacité opérationnelle de savoir avec qui elles sont en conflit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le terrorisme, généralement, n'a pas un territoire qui contrôle. Donc, ce n'est pas nécessairement là où il faut aller le chercher. Et la troisième chose étant donc, vu ces côtés diffus, les forces terroristes, elles vont donc passer d'une région à l'autre, d'une frontière à l'autre. L'idée devient donc que si on se met ensemble, on peut davantage faire face. Et de ce point de vue, la plupart des États ont d'abord des initiatives nationales, après on passe aux initiatives régionales, aux initiatives continentales. Mais comme je l'ai dit au début, en dehors de la structuration idéologique de la pensée, l'Union africaine n'a pas véritablement pensé un concept ou une doctrine en matière de lutte contre le terrorisme parce que l'architecture de paix et de sécurité s'est focalisée aux questions du maintien de la paix.
Mais quant à la question de l'aide internationale que sollicitent les pays africains en disant que l'Occident doit venir parce qu'il y a eu une coalition en Irak, en Afghanistan, il faut aussi qu'il y ait une coalition en Afrique. Croyez-vous à cet argument de la menace globale qui implique nécessairement que les États occidentaux soient présents sur le plan militaire en territoire africain?
Je vois les choses de manière différente en tant que prof d'université. Hein. Ce n'est pas tous les États occidentaux qui ont un intérêt que les États africains soient des États forts. Donc, il y a des coalitions dont le but n'est pas nécessairement la lutte contre le terrorisme. C'est peut-être pour le contrôle des ressources ou pour le contrôle des élites, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, en fonction des objectifs politiques des uns et des autres qui sont à l'origine de la coalition ou l'alliance sera forte ou faible. Ce n'est pas tout le monde qui entre dans une coalition et a un objectif suivant lequel, par exemple, dans 2 mois, il faut qu'on ait fini. Il y a des gens qui entrent dans ces coalitions pour se procurer du travail, pour surveiller d'autres, pour vendre leurs armes, pour exploiter les ressources, pour éloigner leurs concurrents. Donc il y a une variété d'enjeux qui ne peuvent pas permettre à ce que la coalition soit automatiquement prise comme la solution là. Plus opérationnellement efficace.
Réaction de Ahmedou Ould Abdallah sur cette question. Donc, comment est-ce que vous voyez ces demandes?
Écoutez, on ne peut pas avoir de beurre et d'argent du beurre. Deuxièmement, il faut se méfier de généraliser sur l'Afrique. Les problèmes qui se posent, par exemple des problèmes terroristes, au Mali, ils le sont, comme au Burkina, au Niger. Mais ce n'est pas le même problème qui se pose en Centrafrique ou au Congo ou en Angola. Je pense qu'il faut diversifier les problèmes tels qu'ils se posent en Afrique. Ceci étant, dans les pays où il y a une vraie menace terroriste, pas une menace, une réalité terroriste autour du lac Tchad, dans le Sahel, en Somalie, la présence internationale, quand elle dure beaucoup, peut comporter des effets pervers. Mais dans un premier temps, elle est indispensable à certains de nos pays. Mais la vraie réponse est nationale, je le répète, c'est des fronts communs, c'est une armée professionnelle. Regardez, je ne donne pas l'Algérie comme un exemple de bonne gouvernance, ce n'est pas le sujet, quoi, qu'elle le soit ou ne soit pas. Mais il y a eu une mauvaise gestion d'élections qui a entraîné une décennie qu'ils appellent eux-mêmes la décennie noire. Ils n'ont essayer de la dépasser en faisant une réconciliation des amnisties. Ça a marché sur le plan terroriste. Maintenant, il y a d'autres considérations. Je pense qu'en Libye, pendant très longtemps, on a financé tout mouvement qui bougeait au Tchad, au Niger, et ça s'est retourné contre ce pays et contre les nôtres. Aujourd'hui, pour ne pas spéculer, je pense que le Mali, le Burkina, le Niger n'ont pas d'autre choix que de trouver des alliances extérieures, régionales, pour faire face à une menace sérieuse, crédible, réelle. Et on est mal placé pour leur dire que c'est au nom de l'Afrique qu'on fait ceci ou cela. L'Afrique du Sud n'est pas là-bas, le Kenya n'est pas là-bas. Donc, il faut aussi tenir compte de ça. Donc, une bonne gestion nationale et un appel, comme le fait le Niger ou le Burkina ou le Mali, à des pays amis qui n'ont pas de raison d'être altruistes. Pourquoi voulez-vous qu'ils soient altruistes? Nous-mêmes, au niveau individuel, on ne l'est pas. Et on veut le demander des autres pays. À mon avis, on doit cesser d'infantiliser nos opinions publiques et nos pays, voilà. Que tout est gratuit.
Merci beaucoup, merci. Nous terminons cette émission avec donc Jean-Pierre Bayala. Un petit mot des résultats de la formation des armées, parce que dans les interventions étrangères, il y a des volets formation. Que pouvez-vous en dire, Jean-Pierre Bayala?
Et tout à l'heure, on a insisté sur le caractère asymétrique de ce qui nous envahit aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas dans le schéma d'une guerre classique. Et vous comprenez, comme on le dit dans le langage courant et dans nos cultures, il est difficile de lever un chien le jour de la chasse.
Donc, les résultats ne sont pas encore à la hauteur de la menace.
À court terme, ensuite, le matériel qui est utilisé pour ces formations par ces puissances-là n'est pas encore en usage, bien souvent, dans nos États. Et ça reste donc improductif, alors que la notion de sécurité, la plus forte mesure, c'est d'abord l'anticipation. C'est d'abord prévenir. Et prévenir, le problème, c'est quoi? C'est que les armées, d'abord, ont souvent une connotation, j'allais dire aussi atypique, parce que le recrutement se fait souvent sur la base des ethnies, des bases parentales, etc. Par conséquent, au sein même des unités, il y a un problème de professionnalisme d'abord, d'ethnicisme. Et c'est vrai que ici, je ne peux pas donner l'exemple de certains pays où c'est criard, c'est pas le lieu. Mais vous comprenez que la préoccupation première des dirigeants africains, c'est d'abord leur propre sécurité par des armées.
Merci, chers invités, de nous avoir accompagnés sur cette émission qui revenait cette semaine encore sur la question du terrorisme. Nous essayons de voir où en sont les États dans la riposte apportée à ce phénomène. L'aide extérieure est bonne, on peut recourir à un partenaire, mais ce n'est pas forcément la solution la plus efficace. Nous a-t-on dit dans cette émission, il faut la bonne gouvernance pour apporter une bonne partie de la solution à ce phénomène. Terroristes, nous ont dit également nos invités, colonel magistrat Jean-Pierre Bayala, officier de l'armée burkinabé à la retraite, Amadou Ould Abdallah, directeur du Centre de stratégie et de sécurité pour le Sahel et le Sahara, et Joseph-Vincent Toudaï-Baudet, professeur d'université au Cameroun. Merci également à nos auditeurs d'être restés à l'écoute de bout en bout. Fréjus Kenhomme à l'animation de ce débat. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre débat sous l'arbre à palabre.